Chapitre 6. Attaque et défense. À peine Ascanio était-il rentré à l'hôtel et avait-il rendu compte à Benvenuto de la partie de son excursion qui avait rapport à la topographie de l'hôtel de Nel, que celui-ci, voyant que le séjour lui convenait en tout point, s'était empressé de se rendre chez le premier secrétaire des finances du roi, le seigneur de Neufville, pour lui demander acte de la donation royale. Le seigneur de Neufville avait demandé jusqu'au lendemain pour s'assurer de la réalité des prétentions de maître Benvenuto, et quoique celui-ci eût trouvé assez impertinent qu'on ne le crût pas sur parole, il avait compris la légalité de cette demande, et il s'y était rendu, mais décidé pour le lendemain à ne pas faire grâce au seigneur de Neufville d'une demi-heure. Aussi, le lendemain, se présenta-t-il à la minute. Il fut introduit aussitôt, ce qui parut de bon augure. « Eh bien, monseigneur, dit Benvenuto, l'Italien est-il menteur ou vous a-t-il dit la vérité ?»«
La vérité est tout entière, mon cher ami.
C'est bien heureux. Et le roi m'a ordonné de vous remettre l'acte de donation en bonne forme.
Il sera bien reçu. »
Cependant, continua en hésitant le secrétaire des finances, « Eh bien, qu'y a-t-il encore? Voyons. Cependant, si vous me permettiez de vous donner un bon conseil... »«
Un bon conseil, diable, c'est chose rare, monsieur le secrétaire. Donnez, donnez. »«
Eh bien, ce serait de chercher pour votre atelier un autre emplacement que celui du Grand Nel. »
« Vraiment, répondit Benvenuto d'un air goguenard, vous croyez que celui-là n'est point convenable ?»«
Si fait, la vérité m'oblige à dire que vous auriez grand-peine à en trouver un meilleur. »«
Eh bien, alors qu'y a-t-il ? » ?»«
C'est que celui-là appartient à un trop haut personnage pour que vous vous frottiez impunément à lui. »
« J'appartiens moi-même au noble roi de France, répondit Cellini, et je ne reculerai jamais tant que j'agirai en son nom. »«
Oui, mais dans notre pays, maître Benvenuto, tout seigneur est roi chez lui, et en essayant de chasser le prévôt de la maison qu'il occupe, vous courez risque de vie. »
« Tôt ou tard, il faut mourir, répondit sentencieusement Cellini. »
Ainsi, vous êtes décidé,
ce que voyant messire Nicolas de Neufville, il en avait pris son parti au risque de ce qui pouvait en arriver et avait délivré à Benvenuto Cellini l'acte de donation en prévenant toutefois messire Robert d'Estourville de ce qu'il venait d'être forcé de faire, moitié par la volonté du roi, moitié par la persistance de l'orfèvre. Quant à Benvenuto Cellini, il était rentré chez lui sans rien dire à personne de ce qu'il venait de faire, avait enfermé sa donation dans l'armoire où il enfermait ses pierres précieuses et s'était remis tranquillement à l'ouvrage. Cette nouvelle, transmise au prévôt par le secrétaire des finances, prouvait à messire Robert que Benvenuto, comme le lui avait dit le comte de Marmagne, tenait à son projet de s'emparer de gré ou de force de l'hôtel de Nel. Le prévôt se mit donc sur ses gardes, et fit venir ses 24 sergents d'armes, plaça des sentinelles sur les murailles, et n'alla plus au Châtelet que lorsqu'il était absolument forcé de le faire par les devoirs de sa charge. Les jours se passèrent cependant, et Cellini, tranquillement occupé de ses travaux commencés, ne risquait pas la moindre attaque. Aussi messire Robert d'Estourville avait des moments de calme, pendant lesquels il se persuadait à lui-même que l'orfèvre avait eu la langue plus longue que l'épée et qu'il n'oserait jamais exécuter ses damnables projets. Ce fut dans un de ces moments que Colombe, étant sorti par hasard de sa chambre, vit tous ces préparatifs de guerre et demanda à son père de quoi il s'agissait.
« Un drôle à châtier, voilà tout, » avait répondu le prévôt.
Or, comme c'était l'état du prévôt de châtier, Colombe n'avait pas même demandé quel était le drôle dont on préparait le châtiment, trop préoccupée qu'elle était elle-même pour ne pas se contenter de cette simple explication. En effet, d'un mot, messire Robert avait fait un terrible changement dans la vie de sa fille. cette vie si douce, si simple, si obscure et si retirée jusqu'alors, cette vie aux jours si calmes et aux nuits si tranquilles, ressemblait à un pauvre lac tout bouleversé par un ouragan. Oh, combien elle regrettait alors ce temps d'ignorance et de tranquillité pendant lequel la vulgaire mais vigilante amitié de Dame Perrine suffisait presque à son bonheur. Colombe n'avait donc plus que Dieu pour refuge. Aussi se mettait-elle à son prie-Dieu 100 fois par jour, conjurant le maître de toutes choses d'envoyer du secours à sa faiblesse avant la fin des 3 mois qui les séparaient encore de son redoutable fiancé, ou, si tout secours humain était impossible, de lui permettre au moins d'aller rejoindre sa mère. Quant à Ascanio, son existence n'était pas moins troublée que l'existence de celle qu'il aimait. Tous nos héros passaient donc, comme on le voit, des jours et des nuits fort agités, à l'exception de Benvenuto Cellini, qui paraissait avoir complètement oublié ses projets hostiles sur l'hôtel de Nell et de Scotson et qui les ignorait. Cependant, toute la semaine s'étant écoulée dans les différentes émotions que nous avons dites, Benvenuto Cellini, ayant consciencieusement travaillé pendant les 7 jours qui la composent et presque achevé le modèle en terre de son Jupiter, passa le samedi vers les 5 heures du soir sa cotte de maille, boutonna son pourpoint par-dessus et, ayant dit à Ascanio de l'accompagner, s'achemina vers l'hôtel de Nell. Arrivé au pied des murailles, Cellini fit le tour de la place, examinant les côtés faibles et ruminant un plan de siège. L'attaque devait offrir plus d'une difficulté, ainsi que l'avait dit le prévôt à son ami de Marmagne, ainsi que l'avait attesté Ascanio à son maître, ainsi enfin que Benvenuto pouvait le voir par lui-même. Le château de Nell avait créneaux et mâchicoulis, double mur du côté de la grève, et de plus les fossés et les remparts de la ville du côté du Préau-Clair. C'était bien une de ces solides et imposantes maisons féodales qui pouvaient parfaitement se défendre par leur seule masse, pourvu que les portes en fussent solidement gardées, et repoussaient sans secours du dehors les tirelaines et les larronneurs, comme on les appelait à cette époque, et de plus, au besoin, les gens du roi. Au reste, il en était ainsi dans cette amusante époque où l'on était le plus souvent forcé de se servir à soi-même de police et de guet. Sa reconnaissance achevée, selon toute règle de la stratégie antique et moderne, pensant qu'il fallait sommer la place de se rendre avant de mettre le siège devant elle, il alla frapper à la petite porte de l'hôtel par laquelle, déjà une fois, Ascanio était entré. Pour lui, comme pour Ascanio, le vasistas s'ouvrit, mais cette fois, au lieu du pacifique jardinier, ce fut un belliqueux hoqueton qui se présenta. « Que voulez-vous ? » demanda le hoqueton à l'étranger qui venait de frapper à la porte de l'hôtel de Nell. « Prendre possession de l'hôtel dont la propriété est concédée à moi, Benvenuto Cellini, » répondit l'orfèvre. C'est bon, attendez, répondit l'honnête sergent, et il s'empressa, selon l'ordre qu'il avait reçu, d'aller avertir messire d'Estourville. Au bout d'un moment, il revint accompagné du prévôt, qui, sans se montrer, retenant son haleine, se tint aux écoutes dans un coin, environné d'une partie de sa garnison, afin de mieux juger de la gravité du cas. Nous ne savons pas ce que vous voulez dire, répondit le hoqueton. Alors, dit Benvenuto Cellini, remettez ce parchemin à messire le prévôt, c'est la copie certifiée de l'acte de donation. Et il passa le parchemin par le vasistas. Le sergent disparut une seconde fois, mais comme cette fois il n'avait que la main à étendre pour remettre la copie au prévôt, le vasistas se rouvrit presque aussitôt. « Voici la réponse, » dit le sergent, en faisant passer à travers la grille le parchemin en morceaux. « C'est bon, » reprit Cellini avec le plus grand calme. « Au revoir. » Le lendemain, le soleil se leva magnifique sur l'horizon. Benvenuto avait, dès la veille, prié les ouvriers de se rendre à l'atelier, bien que ce fût un dimanche, et aucun d'eux ne manqua à l'appel. « Mes enfants, leur dit le maître, je vous ai engagés pour travailler en orfèvrerie et non pour combattre, cela est certain. Mais depuis 2 mois que nous sommes ensemble, nous nous connaissons déjà assez les uns les autres pour que, dans une grave nécessité, j'aie pu compter sur vous, comme vous pouvez tous et toujours compter sur moi. Vous savez ce dont il s'agit. Nous sommes mal à l'aise ici, sans air et sans espace, et nous n'avons pas nos coudées franches pour entreprendre de grands ouvrages, ou même pour forger un peu vaillamment. Le roi, vous en avez été tous témoins, a bien voulu me donner un logement plus vaste et plus commode, mais vu que le temps lui manque pour s'occuper de ces menus détails, il m'a laissé le soin de m'y établir moi-même. Or, on ne veut pas me l'abandonner, ce logement si généreusement accordé par le roi. Il faut donc le prendre. Et maintenant que vous êtes édifié à fond sur la chose, voyons parler. Voulez-vous me suivre ? Il n'y eut qu'un cri. « Partout, maître, partout, où vous nous mènerez ?»« Ah, bravo, mes enfants. Alors vous êtes tous de la plaisanterie ?»« Tous !»« En ce cas, rage et tempête, nous allons nous divertir !» cria Benvenuto, qui se trouvait enfin dans son élément. « Il y a assez longtemps que je me rouille. Dehors, dehors, les courages et les épées ! Ah, Dieu merci, nous allons donc donner et recevoir quelques bonnes estocades !» Voyons, mes chers enfants, voyons, mes braves amis, il faut s'armer, il faut convenir d'un plan, il faut préparer nos coups, qu'on s'apprête à bien escrimer, et vive la joie! Je vais vous donner tout ce que je possède d'armes offensives et défensives, outre celles qui sont pendues à la muraille et où chacun peut choisir à volonté. Ah, c'est une bonne couleuvrine qu'il nous faudrait, mais, bah, voilà sa monnaie en arquebuse, en hacquebute, en pique, en épée et en poignard. Et puis, des cottes de mailles, des casques et des cuirasses, allons, en hâte, en hâte, habillons-nous pour le bal, c'est le prévôt qui paiera les flûtes. Hurrah ! Crièrent les compagnons. Alors ce fut dans l'atelier un mouvement, un tumulte, un remue-ménage, admirable à voir. La verve et l'entrain du maître animaient tous les cœurs et tous les visages. On essayait des cuirasses, on brandissait des épées, on tirait des poignards, on riait, on chantait, à croire qu'il s'agissait d'une mascarade ou d'une fête. Benvenuto allait, venait, courait, enseignant une botte à l'un, bouclant le ceinturon d'un autre, et sentant son sang courir libre et chaud dans ses veines, comme s'il avait retrouvé sa véritable vie. Quant aux ouvriers, c'était entre eux des plaisanteries à n'en plus finir qu'ils se jetaient sur leur mine guerrière et leur maladresse bourgeoise. « Hé, maître, regardez donc !» criait l'un. « Regardez donc, Simon le gaucher, qui met son épée du même côté que nous. À droite donc, à droite !»« Jehan !» répondait Simon, « qui tient sa hallebarde comme il tiendra sa crosse quand il sera évêque. »« Hé, Pagolo !» disait Jehan, « qui met double cotte de maille. » Pourquoi pas, répondait Pagolo, Herban l'Allemand s'habille bien comme un chevalier du temps de l'empereur Barberousse. Et en effet, celui qu'on venait de désigner sous l'appellation d'Herman l'Allemand, épithète qui formait quelque peu pléonasme, puisque le nom seul par sa consonance germanique indiquait que celui qui le portait appartenait à quelqu'un des cercles du Saint-Empire, Herman, disons-nous, s'était couvert de fer des pieds à la tête, et semblait une de ces gigantesques statues, comme les statuaires de cette belle époque d'art encouchées sur les tombeaux. Aussi Benvenuto, malgré la force devenue proverbiale dans l'atelier de ce brave compagnon d'outre-Rhin, lui fit observer que peut-être éprouverait-il, enfermé comme il l'était dans une pareille carapace, quelques difficultés à se mouvoir, et que sa force, au lieu d'y gagner, y perdrait certainement. Mais, pour toute réponse, Herman sauta sur un établi aussi légèrement que s'il eût été habillé de velours, et décrochant un énorme marteau, il le fit tournoyer au-dessus de sa tête et frappa sur l'enclume 3 si terribles coups qu'à chacun de ces coups l'enclume s'enfonça d'un pouce dans la terre. Seul Ascanio avait fait sa toilette de guerre en silence et à l'écart. Il ne laissait pas d'avoir quelque inquiétude sur les suites de l'équipée qu'il entreprenait, car enfin Colombe pourrait bien ne pas lui pardonner d'avoir attaqué son père, surtout si la lutte amenait quelque grave catastrophe. Et plus près de ses yeux, peut-être allait-il se trouver plus loin de son cœur. Quant à Scotson, et moitié joyeuse, moitié inquiète, elle pleurait d'un côté et riait de l'autre. Le changement et la bataille, cela lui allait, mais les coups et les blessures ne lui allaient pas. Les apprêts du combat faisaient sauter de joie le lutin, les suites du combat faisaient trembler la femme. Benvenuto la vit, ainsi, souriante et pleurante à la fois, et il alla à elle. « Toi, Scozzone, lui dit-il, tu vas rester à la maison avec Ruperta et préparer de la charpie pour les blessés et un bon dîner pour ceux qui se porteront bien. » « Ah, non, pas vraiment !» s'écria Scozzone. « Oh, je vous suis, moi. Avec vous, je suis brave à défier le prévôt et toute la prévotaille. Mais ici, seul avec Ruperta, je mourrai d'inquiétude et de peur. » « Oh, pour cela, je n'y consentirai jamais, » répondit Benvenuto. « Cela me troublerait trop de penser qu'il peut arriver quelque malheur. Tu prieras Dieu pour nous, cher petit, en nous attendant. » « Écoutez, Benvenuto, » reprit la jeune fille, comme illuminée d'une idée subite, « vous comprenez bien que je ne puis supporter l'idée de rester tranquille ici, tandis que vous serez là-bas, blessé, mourant peut-être, mais il y a un moyen de tout concilier. Au lieu de prier Dieu dans l'atelier, j'irai le prier dans l'église la plus proche du lieu du combat. De cette façon, le danger ne pourra m'atteindre et je serai tout de suite averti de la victoire comme du revers. » « Allons, soit, » répondit Benvenuto. « Au reste, il est entendu que nous n'irons pas tuer les autres ou nous faire tuer nous-mêmes, sans, au préalable, aller entendre dévotement une messe. Ah bien, c'est dit, nous entrerons dans l'église des grands Augustins, qui est la plus proche de l'hôtel de Nel, et nous t'y laisserons, petite. » Ces arrangements pris et les préparatifs terminés, on but un coup de vin de Bourgogne. On ajouta aux armes offensives et défensives des marteaux, des pinces, des échelles et des cordes, et l'on se mit en marche, non pas en corps d'armée, mais deux à deux, et à d'assez longues distances pour ne pas attirer l'attention. Ce n'est pas qu'un coup de main fût chose plus rare dans ces temps-là que ne l'est de nos jours une émeute ou un changement de ministère, mais à vrai dire, on ne choisissait pas ordinairement le saint jour du dimanche ni l'heure de midi pour se livrer à ces sortes de récréations, et il fallait toute l'audace de Benvenuto Cellini, soutenue d'ailleurs par le sentiment de son bon droit, pour risquer une tentative pareille. Et donc, les uns après les autres, nos héros arrivèrent à l'église des grands Augustins, et après avoir déposé leurs armes et leurs outils chez le sacristain, qui était un ami de Simon le Gaucher, ils allèrent pieusement assister au saint sacrifice de la messe et demander à Dieu la grâce d'exterminer le plus de hoquetons possible. Cependant, nous devons dire que malgré la gravité de la situation, malgré sa dévotion insigne et malgré l'importance des prières qu'il avait à adresser au Seigneur, Benvenuto, à peine entré dans l'église, donna des marques d'une singulière distraction. C'est qu'un peu derrière lui, mais du côté de la nef opposée, une jeune fille d'un si adorable visage lisait dans un missel enluminé qu'elle eût vraiment dérangé l'attention d'un saint et, à plus forte raison, celle d'un sculpteur. L'artiste, dans cette circonstance, gênait étrangement le chrétien. Aussi, le bon Cellini ne put se tenir de faire partager son admiration, et comme Catherine, qui était à sa gauche, eut sans doute montré trop de sévérité pour les distractions de maître Benvenuto, il se retourna vers Ascanio, qui était à sa droite, avec l'intention de lui faire tourner les yeux vers cette admirable tête de vierge. Mais les yeux d'Ascanio n'avaient plus rien à faire sur ce point. Du moment où le jeune homme était rentré à l'église, ses regards s'étaient fixés sur la jeune fille et ne s'en étaient plus détournés. Benvenuto, qui le voyait absorbé dans la même contemplation que lui, se contenta donc de le pousser du coude. « Oui, » dit Ascanio, « oui, c'est Colombe, n'est-ce pas, maître, comme elle est belle ?» C'était Colombe, en effet, à qui son père, ne redoutant point une attaque en plein midi, avait permis, non sans quelques difficultés néanmoins, d'aller prier Dieu aux Augustins. Il est vrai que Colombe avait fort insisté, car c'était la seule consolation qui lui resta. Dame Perrine était à ses côtés.
« Ah ça, qu'est-ce que Colombe ?» demanda tout naturellement Benvenuto.
« Oh, c'est vrai, vous ne la connaissez pas, vous. Colombe, c'est la fille du prévôt, de messire Robert d'Estourville lui-même. N'est-ce pas qu'elle est belle ?» dit-il une seconde fois.
Non, reprit Benvenuto, non, ce n'est pas Colombe. Vois-tu, Ascanio, c'est Hébé, la déesse de la jeunesse, l'Hébé que mon grand roi François Ier m'a commandé, l'Hébé que je rêve, que je demandais à Dieu et qui est descendu ici-bas, à ma prière. Et sans s'apercevoir du mélange bizarre qu'offrait l'idée d'Hébé, lisant sa messe et élevant son cœur à Jésus, Benvenuto continua son hymne à la beauté en même temps que sa prière à Dieu et ses plans militaires. L'orfèvre, le catholique et le stratégiste reprenaient tour à tour le dessus dans son esprit. « Notre Père qui es aux cieux, mais regarde donc Ascanio, quelle coupe de figure fine et suave. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, en terre comme au ciel. » Comme cette ligne onduleuse du corps est d'un ravissant contour, donnez-nous notre pain quotidien. Et tu dis qu'une si charmante enfant est la fille de ce gredin de prévôt, que je me réserve pour l'exterminer de ma main, et pardonnez-nous nos offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dussé-je brûler l'autel pour en arriver là, ainsi soit-il. Et Benvenuto fit le signe de la croix, ne doutant pas qu'il ne vînt d'achever une excellente oraison dominicale. La messe se termina au milieu de ces diverses préoccupations qui pouvaient paraître un peu bien profanes chez un homme d'un autre caractère et d'un autre temps, mais qui étaient toutes naturelles dans une organisation aussi primesautière que l'était celle de Cellini et à une époque où Clément Marot mettait en vers galants les sept psaumes de la pénitence. L'ité misa est prononcée, Benvenuto et Catherine se serrèrent la main. Puis, tandis que la jeune fille, en essuyant une larme, restait à la place où elle devait attendre l'issue du combat, Cellini et Ascanio, les regards fixés sur Colombe, qui n'avait pas levé les yeux de dessus son livre, allèrent, suivis de leurs compagnons, prendre une goutte d'eau bénite. Après quoi, on se sépara pour se rejoindre dans un cul-de-sac situé à moitié chemin à peu près de l'église à l'hôtel de Nesle. Le moment décisif était arrivé. Benvenuto partagea ses 10 hommes en 2 troupes. L'une devait essayer de forcer par tous les moyens possibles la porte de l'hôtel. L'autre était destinée à protéger les opérations des travailleurs et à écarter des murs à coups d'arquebuse ou à combattre à coups d'épée ceux des assiégés qui paraîtraient sur les créneaux ou qui tenteraient une sortie. Benvenuto prit en personne le commandement de cette dernière troupe et choisit pour lieutenant notre ami Ascanio. Puis il mit à la tête de l'autre notre vieille connaissance Hermann, ce bon et brave Allemand qui aplatissait une barre de fer d'un coup de marteau et un homme d'un coup de poing, lequel prit à son tour pour second le petit Jehan, autre drôle d'une 15aine d'années, leste comme un écureuil, malin comme un singe et hardi comme un page, et que le Goliath avait pris en souveraine affection, par la raison sans doute que l'espiègle enfant ne cessait de tourmenter le bon Germain. Le petit Jehan se plaça donc fièrement à côté de son capitaine, au grand dépit de Pagolo, qui, dans sa double cuirasse, ne ressemblait pas mal, pour la raideur de ses mouvements, à la statue du commandeur. Les choses ainsi disposées et une dernière revue faite des armes et des combattants, Benvenuto adressa quelques mots à ces braves gens qui allaient de si bon cœur pour lui au-devant des dangers et de la mort peut-être. Ensuite de quoi, il leur serra la main à tous, fit pieusement le signe de la croix et cria « En avant !» Aussitôt, les 2 groupes s'ébranlèrent, et longeant le quai des Augustins, désert à cette heure et à cet endroit, elles arrivèrent, en maintenant entre elles une certaine distance, au bout d'un instant, devant l'hôtel de Nesle. Alors Benvenuto, ne voulant pas attaquer son ennemi sans avoir accompli toutes les formalités de courtoisie usitées en pareil cas, s'avança seul, son mouchoir blanc au bout de l'épée, vers la petite porte de l'hôtel où il était déjà venu la veille, et frappa. Comme la veille, on lui demanda à travers l'ouverture grillée ce qu'il demandait, Benvenuto répéta le même protocole, disant qu'il venait prendre possession du château qui lui avait été donné par le roi. Mais, plus malheureux que la veille, il n'obtint pas cette fois l'honneur d'une réponse. Mes enfants, dit-il, vous le voyez, il n'y a plus moyen d'éviter la lutte. Maintenant, de quelle manière faut-il l'engager?
J'enfoncerai la porte, dit Herman, et vous me suivrez, voilà tout.
Et avec quoi, mon Samson? Demanda Benvenuto Cellini. Herman regarda autour de lui et aperçut sur le quai une solive que quatre hommes ordinaires auraient eu peine à soulever.
« Avec cette poutre, dit-il. »
Et il alla tranquillement ramasser la poutre, la mit sous son bras, l'y assujettit comme un bélier dans sa machine et revint vers son général. Cependant, la foule commençait à s'amasser, et Benvenuto, excité par elle, allait donner l'ordre de commencer l'attaque, lorsque le capitaine des archers du roi, prévenu sans doute par quelques bourgeois conservateurs, parut à l'angle de la rue, accompagné de 5 ou 6 de ses gens à cheval. Ce capitaine était un ami du prévôt, et quoiqu'il sût parfaitement de quoi il s'agissait, il s'approcha de Benvenuto Cellini, espérant l'intimider sans doute, et tandis que ses gens barraient la route à Herman.
« Que demandez-vous, dit-il, et pourquoi troublez-vous ainsi la tranquillité de la ville ?»«
Celui qui trouble véritablement la tranquillité, répondit Cellini, est celui qui refuse d'obéir aux ordres du roi, et non pas celui qui les exécute. »«
Que voulez-vous dire ? » demanda le capitaine.
« Je veux dire que voilà une ordonnance de Sa Majesté en bonne et due forme, délivrée par Monsieur de Neuville, secrétaire des Finances, laquelle me fait don de l'hôtel du Grand Nel, mais les gens qui y sont enfermés refusent de reconnaître cette ordonnance et par conséquent me dénient mon bien. Or, d'une façon ou de l'autre, j'ai mis dans ma tête, puisque l'Écriture dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, que Benvenuto Cellini a le droit de reprendre ce qui appartient à Benvenuto Cellini.
Et, au contraire, de nous empêcher de conquérir notre hôtel, vous devriez nous prêter main forte, cria Pagolo.
Tue-toi, drôle, dit Benvenuto frappant du pied, je n'ai besoin de l'aide de personne, entends-tu?
Vous avez raison en droit, répondit le capitaine, mais vous avez tort en fait.
Comment cela? Demanda Benvenuto, qui sentait que le sang commençait à lui monter au visage.
Vous avez raison de vouloir rentrer dans votre bien, mais vous avez tort d'y vouloir rentrer de cette façon, car vous ne gagnerez pas grand-chose de bon, je vous le prédis, à espadonner contre les murailles. Si j'ai un conseil à vous donner, conseil d'ami, croyez-moi, c'est de vous adresser à la justice et de porter plainte au prévôt de Paris, par exemple. Là-dessus, adieu et bonne chance.
Et le capitaine des archers du roi s'en alla en ricanant, ce qui fit que la foule, qui voyait rire l'autorité, se mit à rire.
« Rira bien qui rira le dernier, » dit Benvenuto Cellini. « En avant, Herman, en avant !»
Herman reprit sa poutre, et tandis que Cellini, Ascanio et 2 ou 3 des plus habiles tireurs de la troupe, l'arquebuse à la main, se tenaient prêts à faire feu sur la muraille, il s'avança comme une catapulte vivante contre la petite porte que l'on avait jugée plus facile à enfoncer que la grande. Mais lorsqu'il s'approcha de la muraille, une grêle de pierres commença d'en tomber, et cela sans qu'on vît personne, car le prévôt avait fait entasser ses pierres sur le haut des remparts comme une seconde muraille superposée à la première, et il n'y avait qu'à pousser les pierres du bout du doigt pour que, dans leur chute, elles écrasassent les assiégeants. Aussi, ceux-ci, voyant la grêle qui les accueillait, firent-ils un pas en arrière. Il n'y eut donc, si inattendu que fût cette terrible défense, personne de blessé que Pagolo, qui, alourdi par sa double cuirasse, ne put se retirer aussi vivement que les autres et fut atteint au talon. Quant à Herman, il ne s'inquiéta pas plus de cette nuée de moellons qu'un chêne ne le fait de la grêle, et continua son chemin vers la porte, où, s'étant mis en batterie, il commença à heurter de tels coups qu'il était évident que, si forte qu'elle fût, elle ne tiendrait pas longtemps à de pareilles secousses. De son côté, Benvenuto et les siens se tenaient l'arquebuse au poing et prêts à faire feu sur quiconque paraîtrait sur la muraille, mais personne ne paraissait. Le Grand Nel semblait être défendu par une garnison invisible. Benvenuto enrageait de ne pouvoir venir en aide à son brave Allemand. Tout à coup, il avisa la vieille Tourdenelle, qui, comme nous l'avons dit, était de l'autre côté du quai et baignait solitairement ses pieds dans la Seine.
« Attends, Herman !» s'écria Cellini. « Attends, mon brave garçon. L'hôtel de Nesle est à nous, aussi vrai que je m'appelle Benvenuto Cellini, de mon nom, et que je suis orfèvre de mon état. »
Et puis, faisant signe à Ascanio et à deux de ses compagnons de le suivre, il courut vers la tour, tandis qu'Herman, obéissant aux ordres de son maître, faisait quatre pas en arrière et, dressant sa poutre comme un Suisse sa hallebarde, attendait, hors de la portée des pierres, l'effet de la promesse du général. En effet, comme Benvenuto l'avait prévu, le prévôt avait négligé de faire garder la vieille tour. Il s'en empara donc sans résistance, et, montant les escaliers quatre à quatre, il parvint en un instant sur la terrasse. Cette terrasse dominait les murailles du Grand Nesle comme un clocher domine une ville, de sorte que les assiégés, tout à l'heure à l'abri derrière leurs remparts, se trouvèrent tout à coup à découvert. Un coup d'arquebuse qui retentit, une balle qui siffla, un hoqueton qui tomba en heurtant, annoncèrent au prévôt que la face des choses allait, selon toute probabilité, changer pour lui. En même temps, Herman, comprenant qu'il avait le champ libre, reprit sa poutre et recommença à ébranler à nouveau la porte, que les assiégés venaient au reste de raffermir pendant cette espèce de trêve.
Quant à la foule, comme elle avait compris, avec cet admirable instinct de conservation qu'elle possède, que la fusillade allait se mettre de la partie et que les spectateurs de la tragédie qui allait se passer pourraient bien attraper quelques sanglantes éclaboussures, elle s'était, au coup d'arquebuse de Benvenuto et au cri poussé par le soldat blessé, dispersée comme une volée de pigeons. Un seul individu était resté. Cet individu était notre ami Jacques Aubry, le basochien, lequel, dans l'espoir de faire sa partie de paume, venait au rendez-vous que lui avait fixé le dimanche précédent Ascanio. Il n'eut besoin que de jeter un coup d'œil sur le champ de bataille et vit, à l'instant même, de quoi il était question. La détermination que devait prendre Jacques Aubry, avec le caractère que nous lui connaissons, n'était pas douteuse. Jouer à la paume ou à l'arquebuse, c'est toujours un jeu. Devinant que ses amis étaient au nombre des assaillants, ce fut donc parmi ceux-ci qu'il se rangea. « Eh bien, mes enfants, dit-il en s'avançant vers le groupe qui attendait que la porte fût enfoncée pour se précipiter dans la place, nous faisons un petit siège, peste. Vous ne vous attaquez pas à une bicoque, et c'est une rude tentative que vous entreprenez là, étant si peu de monde devant une si forte place. » « Nous ne sommes pas seuls, » dit Pagolo, qui pansait son talon en montrant de la main Benvenuto et ses trois ou quatre compagnons qui continuaient sur la muraille un feu si bien nourri que les pierres commençaient à pleuvoir infiniment moins drues qu'en commençant. Jacques Aubry prit le chemin de la tour, et un instant après, il était entre Ascanio et Benvenuto Cellini, qui, leurs arquebuses à la main, faisaient un feu si bien nourri qu'ils avaient déjà mis hors de combat deux ou trois hommes. Les sergents de Messire le Prévôt commençaient à y regarder à deux fois avant de monter sur la muraille. Cependant, comme la porte menaçait de céder, le prévôt résolut de tenter un dernier effort et encouragea si bien ses gens qu'une grêle de pierres recommença à tomber. Mais deux coups d'arquebuse partis presque aussitôt calmèrent de nouveau l'ardeur des assiégés qui, quelques remontrances ou promesses que leur fit messire Robert, se tinrent coi et couverts. Ce que voyant, messire Robert s'avança lui-même et, prenant entre ses mains une énorme pierre, il s'apprêta à la faire rouler sur Herman. Mais Benvenuto n'était pas homme à se laisser prendre à l'improviste. À peine eut-il vu l'imprudent qui se hasardait là où personne n'osait plus venir, qu'il porta son arquebuse à son épaule. C'en était fait de messire Robert, lorsqu'à l'instant même où Cellini allait lâcher la détente, Ascanio poussa un cri, releva le canon avec sa main, le coup partit en l'air. Ascanio avait reconnu le père de Colombe. Au moment où Benvenuto, furieux, allait demander à Ascanio l'explication de ce qu'il venait de faire, la pierre, lancée vigoureusement par le prévôt, alla tomber d'aplomb sur le casque d'Herman. Or, quelle que fût la force du moderne titan, il n'y avait pas moyen de résister à cet autre pélion.
Il lâcha la poutre qu'il tenait, ouvrit les bras comme pour chercher un appui, et puis, ne trouvant rien où se retenir, il tomba évanoui avec un bruit terrible. Assiégés et assiégeants poussèrent en même temps un grand cri. Le petit Jehan et les trois ou quatre compagnons qui étaient à portée d'Hermann se précipitèrent sur lui pour l'emporter loin de la muraille et lui donner des secours. Mais en même temps la grande et la petite porte de l'hôtel de Nel s'ouvrirent, et le prévôt, à la tête d'une quinzaine d'hommes, s'élança sur le blessé, payant bravement de sa personne, frappant ainsi que ses hommes d'estoc et de taille, si bien que Jehan et les trois compagnons, malgré les encouragements de Benvenuto qui leur criait de tenir ferme et qu'il arrivait à leur secours, furent forcés de reculer. Le prévôt profita de ce moment de retraite. 8 hommes empoignèrent Hermann, toujours évanoui, les uns par les bras, les autres par les jambes. 7 se placèrent en avant pour protéger le mouvement rétrograde qui allait s'opérer. De sorte que pendant le temps où Cellini, Ascanio, Jacques Aubry et les 3 ou 4 compagnons qui étaient sur la terrasse de la tour descendaient les 4 ou 5 étages qui séparaient cette terrasse de la rue, Hermann et ses porteurs rentraient au grand aile, et que, comme Cellini, son arquebuse à la main paraissait à la porte de la tour, celle de l'hôtel se refermait sur le dernier homme d'armes du prévôt. Il n'y avait pas à se dissimuler que c'était un échec, et un échec grave. Cellini, Ascanio et leurs compagnons avaient bien, par leurs arquebusades, mis hors de combat 3 ou 4 assiégés, mais la perte de ces 3 ou 4 hommes était loin d'équivaloir pour le prévôt ce qu'était la perte d'Hermann pour Cellini. Il y eut un moment de stupeur parmi les assiégeants. Et tout à coup, Cellini et Ascanio se regardèrent. « J'ai un projet, » dit Cellini en regardant à gauche, c'est-à-dire du côté de la ville. « Mais moi aussi, » dit Ascanio, en regardant à droite, du côté des champs. « J'ai trouvé un moyen de faire sortir la garnison. »« Et moi, si vous faites sortir la garnison, j'ai trouvé un moyen de vous ouvrir la porte. »« De combien d'hommes as-tu besoin ?»« Un seul me suffira. Me choisis. »« Jacques Aubry, » dit Ascanio, « voulez-vous venir avec moi ?» « Au bout du monde, cher ami, au bout du monde. Seulement, je ne serais pas fâché d'avoir une arme quelconque, quelque chose comme un bout d'épée ou un soupçon de poignard, 4 ou 5 pouces de fer à fourrer quelque part si l'occasion s'en présente. »« Eh bien, » dit Ascanio, « prenez l'épée de Pagolo, qui ne peut plus s'en servir, attendu qu'il se tient le talon de la main droite et qu'il fait le signe de la croix de la main gauche. » « Et voici, pour compléter votre armement, mon propre poignard, » dit Cellini. « Frappez avec, jeune homme, mais ne l'oubliez pas dans la blessure. Vous feriez un trop beau cadeau au blessé, attendu qu'il est ciselé par moi et que la poignée vaut 100 écus d'or, comme un liard. »« Viva !» cria l'écolier. « Allons, Ascanio, en route !»« Me voilà, » dit Ascanio, en roulant 5 ou 6 brasses de corde autour de son corps et en mettant une des échelles sur son épaule. « Me voilà !» Les 2 aventureux jeunes gens descendirent le quai pendant 100 pas à peu près, tournèrent à gauche et disparurent à l'angle de la muraille du Grand Nel, derrière les fossés de la ville. Laissons Ascanio tenter son projet et suivons Cellini dans l'accomplissement du sien. Ce qu'il regardait à gauche, c'est-à-dire du côté de la ville, tandis qu'Ascanio, comme nous l'avons dit, regardait à droite, c'est-à-dire du côté des champs, c'était, au milieu d'un groupe de populaires qui se tenaient à distance, 2 femmes qu'il croyait reconnaître pour la fille du prévôt et pour sa gouvernante. En effet, c'était Colombe et Dame Perrine qui, la messe achevée, revenaient pour rentrer au Petit Nel et qui, effrayées de ce qu'on leur disait sur le siège de l'hôtel et de ce qu'elles voyaient de leurs propres yeux, s'étaient arrêtées, tremblantes, au milieu de la foule. Mais à peine Colombe se fut-elle aperçue qu'il existait entre les combattants une espèce de trêve momentanée qui lui laissait le passage libre, que malgré les prières de Dame Perrine qui la suppliait de ne pas s'avancer dans cette bagarre, Colombe, mue par l'inquiétude que lui espérait le danger de son père, s'avança résolument vers l'hôtel, laissant à Dame Perrine liberté entière de la suivre ou de demeurer où elle était. Mais comme au fond du cœur Dame Perrine aimait tendrement Colombe, la duègne, quelle que fût sa crainte, se résolut à l'accompagner. Toutes les 2 quittaient le groupe comme Ascanio et Jacques Aubry tournaient l'angle de la muraille. Maintenant on comprend le projet de Benvenuto Cellini. À peine eut-il vu les deux femmes s'avancer vers l'hôtel du prévôt que lui-même s'avança au-devant d'elles, et offrant galamment le bras à Colombe, « Madame, ne craignez rien, dit-il, et si vous voulez accepter mon bras, je vais vous ramener près de votre père. » Colombe hésitait, mais Dame Perrine, saisissant le bras qui se trouvait de son côté et que Benvenuto avait oublié de lui offrir. « Prenez, chère petite, prenez, dit-elle, et acceptons la protection de ce noble cavalier. Tenez, tenez, voici monsieur le prévôt qui se penche sur la muraille, inquiet sans doute qu'il est de nous. » Colombe prit le bras de Benvenuto et tous trois s'avancèrent jusqu'à deux pas de la porte. Là, Cellini s'arrêta, et assurant sous chacun de ses bras le bras de Colombe et celui de Dame Perrine, « Monsieur le prévôt, dit-il à haute voix, voici votre fille qui demande à rentrer. J'espère que vous lui ouvrirez la porte à elle, à moins que vous ne consentiez à laisser aux mains de vos ennemis un si charmant otage. » 20 fois depuis 2 heures, le prévôt, à l'abri derrière ses retranchements, avait songé à sa fille qu'il avait si imprudemment laissée sortir et qu'il ne savait trop comment faire rentrer. Il espérait qu'avertie à temps, elle penserait à l'aller attendre au Grand Châtelet. Quand, voyant Cellini quitter le groupe de ses compagnons et s'avancer vers les deux femmes, il avait reconnu dans ces deux femmes Colombe et Dame Perrine. « La petite sotte !» grommela tout bas le prévôt. « Je ne puis cependant pas la laisser au milieu de ces mécréants !» Puis, élevant la voix, « Eh bien, voyons, dit-il, ouvrant le guichet et en appliquant son visage à la grille, que demandez-vous »« Voici mes offres, dit Benvenuto. Je laisserai rentrer Madame Colombe et sa gouvernante, mais vous sortirez avec tous vos hommes et nous combattrons dehors et à découvert. Ceux à qui le champ de bataille restera auront l'hôtel, et alors, tant pis pour les vaincus. Vae victis, comme disait votre compatriote Brennus. J'accepte, dit le prévôt, mais à une condition. Laquelle? C'est que vous vous écarterez, vous et votre troupe, pour laisser à ma fille le temps de rentrer et à mes sergents le temps de sortir. Soit, dit Cellini, mais sortez d'abord, Madame Colombe rentrera après. Puis, Madame Colombe rentrée, et pour ôter toute retraite, vous jetterez la clé par-dessus les murailles. Convenu, dit le prévôt. Votre parole? Foi de gentilhomme. La vôtre? Foi de Benvenuto Cellini. Cette promesse échangée, la porte s'ouvrit. Les gens du prévôt sortirent et se rangèrent sur 2 rangs devant la porte, messire d'Estourville à leur tête. Ils étaient encore 19 en tout. De son côté, Benvenuto Cellini, privé d'Ascanio, d'Hermann et de Jacques Aubry, n'avait plus que 8 combattants. Encore Simon le Gaucher était-il blessé, heureusement que c'était à la main droite, mais Benvenuto n'était pas homme à calculer le nombre de ses ennemis, lui qui avait été frappé Pompeo au milieu de 12 sbires. Il tint donc sa promesse avec joie, car il ne désirait rien tant qu'une action générale et décisive. « Vous pouvez maintenant rentrer, madame, dit-il à sa jolie prisonnière. » Colombe rentra, suivie de Dame Perrine, à qui la peur avait donné, sinon des ailes, comme à sa jolie compagne, du moins des jambes, qu'elle croyait avoir perdues depuis 10 ans. Le prévôt tira la porte derrière elle. Il y eut alors une mêlée terrible, car avant que les hoquetons eussent eu le temps d'abaisser leurs fusils et de faire feu, Benvenuto, avec ses 7 ouvriers, était tombé au milieu d'eux, hachant à droite et à gauche avec cette terrible épée qu'il maniait si habilement et qui, trempé par lui-même, trouvait si peu de cottes de mailles et même de cuirasses qui pussent lui résister. Les sergents jetèrent donc leurs arquebuses devenues inutiles, tirèrent leurs épées et se mirent à espadonner à leur tour. Mais, malgré leur nombre, malgré leur force, en moins d'un instant ils se trouvèrent éparpillés sur la place, et 2 ou 3 des plus braves, blessés au point de ne plus pouvoir continuer le combat, furent forcés de se retirer en arrière. Le prévôt vit le danger, et comme c'était un homme brave, et qui, dans son temps, ainsi que nous l'avons dit, avait eu des succès d'armes, il se jeta au-devant de ce terrible Benvenuto Cellini, devant lequel tout cédait. « À moi » criait-il, « à moi, infâme, larronneur, et que tout se décide entre nous deux, voyons !»
Oh, sur mon âme, je ne demande pas mieux, messire Robert, répondit Benvenuto, et si vous voulez dire à vos gens de ne pas nous déranger, je suis votre homme.
Tenez-vous tranquille, dit le prévôt. Que pas un ne bouge, cria Cellini.
Et les combattants restèrent en place, silencieux et immobiles, comme ces guerriers d'Homère qui interrompaient leur propre combat pour ne rien perdre du combat de deux chefs renommés. Alors, comme le prévôt et Cellini tenaient chacun son épée nue à la main, ils se précipitèrent l'un sur l'autre. Le prévôt était habile aux armes, mais Cellini était de première force. Depuis 10 ou 12 ans, le prévôt n'avait pas eu une seule fois l'occasion de tirer l'épée. Depuis 10 ou 12 ans, au contraire, un seul jour ne s'était peut-être pas écoulé sans que Benvenuto mît flamberge au vent. Aux premières passes, le prévôt, qui avait un peu trop compté sur lui-même, s'aperçut donc de la supériorité de son ennemi. Aussi, comprenant qu'il avait affaire à plus fort que lui, se mit-il à rompre, tout en se défendant, il est vrai, mais enfin en cédant du terrain. Malheureusement pour messire Robert, il avait tout naturellement le dos tourné au mur, de sorte qu'au bout de quelques pas, il se trouva acculé à la porte que, par instinct, il avait cherchée. Arrivé là, le prévôt se sentit perdu. Aussi, comme un sanglier qui tient au chien, réunit-il toute sa force, et 3 ou 4 bottes se succédèrent si rapidement que ce fut à Benvenuto de parer à son tour. Encore une fois, arriva-t-il trop tard à la parade, de cette façon que son adversaire, malgré l'excellente cotte de maille qu'il portait, lui effleura la poitrine. Mais comme le lion blessé qui veut une prompte revanche, à peine Benvenuto eut-il senti la pointe du fer qu'il se ramassa sur lui-même et qu'il eut, d'un coup de pointe terrible, percé de part en part le prévôt, si juste au moment la porte n'eut tout à coup cédé derrière lui, de sorte que messire d'Estourville tomba à la renverse et que le fer alla frapper celui qui venait de le sauver en ouvrant si inopinément la porte. Mais, au contraire de ce qu'on devait attendre, ce fut le blessé qui garda le silence, et ce fut Benvenuto qui jeta un cri terrible. Il avait, dans celui qu'il venait de frapper, reconnu Ascanio. Dès lors, il ne vit plus ni Herman ni Jacques Aubry qui se tenaient derrière le blessé. Il se jeta comme un fou au cou du jeune homme, cherchant sa plaie des yeux, de la main, de la bouche, et criant « Tué, tué, tué par moi, Ascanio, mon enfant, c'est moi qui t'ai tué !» et rugissant et pleurant comme les lions doivent rugir et pleurer. Pendant ce temps, Herman tirait le prévôt sain et sauf d'entre les jambes d'Ascanio et de Cellini, et le mettant sous son bras comme il aurait pu faire d'un enfant, il le déposait dans une petite remise où maître Rimbaud serrait ses instruments de jardinage, et refermant la porte sur lui, il tirait son épée hors du fourreau et se mettait en posture de défendre son prisonnier contre quiconque tenterait de le lui reprendre. Quant à Jacques Aubry, il ne faisait qu'un bond du pavé de la cour au haut de la muraille, brandissant sa dague en signe de triomphe et criant « Fanfare, fanfare, le grand Nel est à nous !» Comment toutes ces choses surprenantes étaient-elles arrivées, c'est ce que le lecteur va voir. L'hôtel de Nel, dans la partie qui longeait le pré au clair, était doublement défendu par les murs et par les fossés de la ville, si bien que de ce côté il passait pour imprenable. Or, Ascanio avait judicieusement pensé qu'on s'avise rarement de garder ce qui ne peut être pris, et il avait résolu de tenter une attaque sur le point où l'on ne songeait point à la résistance. C'est dans cette vue qu'il s'éloigna avec son ami Jacques Aubry, sans se douter qu'au moment où il disparaissait d'un côté, sa colombe bien-aimée allait apparaître de l'autre et fournir à Benvenuto un moyen de contraindre le prévôt à une sortie qui inspirait à celui-ci une si profonde répugnance. Le projet d'Ascanio était scabreux par l'exécution, périlleux par les suites. Il s'agissait de franchir un fossé profond, d'escalader un mur de 25 pieds de haut et au bout de tomber peut-être au milieu de la troupe ennemie. Heureusement, un chêne était là qui faisait avec le mur une arche de pont dont l'échelle d'Ascanio constituait le complément. Les deux compagnons cédèrent mutuellement à cette périlleuse ascension et furent bientôt sur le faîte du mur.
Là, Ascanio, déroulant la corde qu'il portait autour de sa taille, eut le bonheur de pouvoir redescendre de l'autre côté, quoiqu'il courût le double risque de tomber dans cette hasardeuse expédition et d'être vu d'un occupant de l'hôtel. Jacques Aubry le suivit avec le même bonheur et les deux amis se trouvèrent dans le jardin. Une fois arrivés là, le mieux était d'agir vivement. Toutes ces manœuvres avaient demandé un certain temps, et Ascanio tremblait que son absence et celle de l'écolier n'eussent été préjudiciables aux affaires du maître. Tous deux, tirant leurs épées, coururent donc vers la porte qui donnait dans la première cour où devait se tenir la garnison, en supposant qu'elle n'eût point changé de place. En arrivant à la porte, Ascanio colla son œil à la serrure et s'aperçut que la cour était vide. « Benvenuto a réussi !» s'écria-t-il. « La garnison est sortie ! À nous l'hôtel !» Et il essaya d'ouvrir, mais la porte était fermée à clé. Tous deux se mirent à l'ébranler de toutes leurs forces. « Par ici, par ici !» dit une voix qui vibra jusqu'au fond du cœur du jeune homme. « Par ici, monsieur !» Ascanio se retourna et aperçut Colombe à une fenêtre du rez-de-chaussée. En deux bonds, il fut auprès d'elle. « Ah !» dit Jacques Aubry en le suivant, « il paraît que nous avons des intelligences dans la place. Ah, vous ne m'aviez pas dit ça, monsieur le cachotier !»« Oh, sauvez mon père, monsieur Ascanio !» cria Colombe, sans s'étonner de voir là ce jeune homme, et comme si sa présence eût été chose toute naturelle. « Ils se battent, entendez-vous, là, dehors, et c'est pour moi, à cause de moi. Oh, mon Dieu, empêchez qu'ils ne le tuent !» « Soyez tranquille, » dit Ascanio en s'élançant dans l'appartement, qui avait une sortie dans la petite cour. « Soyez tranquille, je réponds de tout. »« Soyez tranquille, » dit Jacques Aubry, en prenant le même chemin. « Soyez tranquille, nous répondons de tout. » En arrivant sur le seuil de la porte, Ascanio s'entendit appeler une seconde fois, mais cette fois par une voix moins douce que la première. « Qui appelle ?» dit Ascanio. « Moi, mon jeune ami, moi !» répéta la même voix, avec un accent tudesque des plus prononcés. « Eh, pardieu !» s'écria Jacques Aubry. « C'est notre Goliath ! Que diable faites-vous dans ce poulailler, mon brave géant ?» En effet, il avait reconnu Hermann à travers la lucarne de la petite remise. « J'ai retrouvé, moi, ici, moi, pas à voir comment y être venu, moi, tirer le ferrou que j'aille m'y pâtre, fit, la main mi-dimanche !» « Oh là !» dit l'écolier, en se mettant en devoir de rendre à Hermann le service qu'il lui demandait. Pendant ce temps, Ascanio s'avançait vers la porte du quai, où se faisait entendre un terrible froissement d'épée. Lorsqu'il ne fut plus séparé des combattants que par l'épaisseur du bois, il craignit, en se montrant inopinément, de tomber aux mains de ses ennemis, et regarda par le vasistas grillé. Alors il vit en face de lui Cellini, ardent, furieux, acharné. Il comprit que messire Robert était perdu. Il ramassa la clé qui était à terre, ouvrit vivement la porte, et ne songeant qu'à la promesse qu'il avait faite à Colombe, il reçut, comme nous l'avons dit, dans l'épaule, le coup qui, sans lui, eut inévitablement transpercé le prévôt. Nous avons vu quelle avait été la suite de cet événement. Benvenuto, désespéré, s'était jeté dans les bras d'Ascanio. Hermann avait enfermé le prévôt dans la prison dont il sortait à l'instant même, et Jacques Aubry, juché sur le rempart, battait des ailes et chantait victoire. La victoire, en effet, était complète. Les gens du prévôt, voyant leur maître prisonnier, n'essayèrent même pas de la disputer et mirent bas les armes. « Et mon père, » dit tout à coup derrière Benvenuto, une voix qui le fit tressaillir, « qu'avez-vous fait de mon père ?» Benvenuto se retourna et vit Colombe, pâle et immobile, cherchant le prévôt du regard, en même temps qu'elle le demandait de la voix. « Oh, ça est sauf, mademoiselle, ça est sauf grâce au ciel !» s'écria Ascanio. « Grâce à ce pauvre enfant qui a reçu le coup qui lui était destiné, » dit Benvenuto. « Car vous pouvez bien dire qu'il vous a sauvé la vie, ce brave. Allez, monsieur le prévôt. Eh bien, où êtes-vous donc, messire Robert ?» dit à son tour Cellini, en cherchant des yeux messire Robert, dont il ne pouvait comprendre la disparition. « Il être ici, maître, » dit Hermann. « Où cela, ici ? Ici, dans la petite brison ?» Oh, monsieur Benvenuto, s'écria Colombe en s'élançant vers la remise et en faisant à la fois un geste de supplication et de reproche. Ouvrez, Hermann, dit Cellini. Hermann ouvrit et le prévôt parut sur le seuil, un peu humilié de sa mésaventure.
Colombe se jeta dans ses bras. « Oh, mon père !» s'écria-t-elle. « N'êtes-vous pas blessé? N'avez-vous rien ?»
Et, tout en disant cela, elle regardait Ascanio.
« Non, dit le prévôt de sa voix rude, non, grâce au ciel, il ne m'est rien arrivé. »
« Et, demanda en hésitant Colombe, est-il vrai, mon père, que ce soit ce jeune homme ?
Je ne puis nier qu'il ne soit arrivé à temps.
« Oui, oui, dit Cellini, pour recevoir le coup d'épée que je vous destinais, monsieur le prévôt. »«
Oui, mademoiselle Colombe, oui, reprit Benvenuto, c'est à ce brave garçon que vous devez la vie de votre père, et si monsieur le prévôt ne le proclame pas hautement, non seulement ce serait un menteur, mais encore c'est un ingrat. »
Ce que Benvenuto avait dit au prévôt du service que lui avait rendu le blessé était la vérité pure. Or, comme toute vérité porte sa force en elle-même, le prévôt ne pouvait se dissimuler au fond du cœur qu'il devait la vie à Ascanio. Il s'exécuta donc d'assez bonne grâce et s'approchant du blessé,
« Jeune homme, dit-il, je mets à votre disposition un appartement dans mon hôtel. »
« Dans votre hôtel, messire Robert ?» dit en riant Benvenuto Cellini, dont la bonne humeur revenait à mesure qu'il cessait de craindre pour Ascanio. « Dans votre hôtel ? Mais vous voulez donc absolument que la bagarre recommence ?»«
Quoi ? S'écria le prévôt. Vous prétendriez donc nous chasser, ma fille et moi ?»«
Non, pas vraiment, messire. Vous occupez le petit Nel, eh bien, gardez le petit Nel et vivons en bons voisins. Quant à vous, messire, trouvez bon qu'Ascanio s'installe tout de suite au Grand Nel, où nous viendrons le rejoindre dès ce soir. Après cela, si vous aimez mieux la guerre... »«
Oh, mon père !» s'écria Colombe.
« Non, la paix, dit le prévôt. »
« Il n'y a pas de paix sans condition, monsieur le prévôt, dit Benvenuto. Faites-moi l'honneur de me suivre au Grand Nel ou l'amitié de me recevoir au petit, et nous rédigerons notre traité. »«
J'irai avec vous, monsieur, dit le prévôt. »«
Acceptez, répondit Cellini. » »«
Mademoiselle, dit messire d'Estourville en s'adressant à sa fille, faites-moi le plaisir de rentrer chez vous et d'y attendre mon retour. »
Colombe, malgré le ton dont l'injonction était faite, présenta son front à baiser à son père et saluant d'un regard qu'elle adressa à tout le monde, afin qu'Ascanio eût le droit d'en prendre sa part, elle se retira. Ascanio la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle eût disparu et accepta les soins d'un chirurgien que l'on était allé quérir et qui affirma que la blessure, quoique profonde, n'était pas dangereuse. De leur côté, messire d'Estourville et Benvenuto Cellini visitèrent les lieux et décidèrent de leur accord. Messire d'Estourville acceptait d'abandonner à Cellini la propriété du Grand Nel et garder le Petit Nel. La cour située entre les deux propriétés restait commune. Le sieur d'Estourville se réservait d'ailleurs de faire ouvrir une autre porte qui rendrait cette cour inutile. Cellini insista pour que règne entre eux une paix loyale et sincère. Pendant ce temps, Catherine faisait son entrée et, avec sa folie charmante, embrassait tous les compagnons combattants. Ascanio présenta Jacques Aubry à Cellini et, se rappelant sa promesse d'une partie de jeu de paume, demanda à son maître de le remplacer.
« De tout mon cœur, dit Benvenuto, et vous n'avez qu'à bien vous tenir, maître Jacques Aubry. »«
on tâchera, messire.
Seulement, comme nous souperons ensuite, vous saurez que le vainqueur sera tenu de boire, en soupant, deux bouteilles de plus que le vaincu.
Ce qui veut dire qu'on m'emportera de chez vous, ivre mort. » « Maître Benvenuto, vive la joie, cela me va !»
Et prenant balles et raquettes, tous deux s'élancèrent vers le jardin.